franceinter.fr.
Notre invité, Léa Salamé, secrétaire d'État chargée de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Bonjour Thierry Mondon.
Bonjour.
En une semaine, Benoît Hamon, Cécile Duflot, Arnaud Montebourg, trois anciens ministres se présentent contre François Hollande. Elle commence bien cette rentrée.
C'est des primaires qui se préparent. C'est, par définition, les primaires, c'est des choix de sélection de candidature. Il y a beaucoup de postulants.
Alors, des primaires, vous dites des primaires, mais pas sûr que ce soit des primaires, parce que vous avez entendu Arnaud Montebourg hier. Arnaud Montebourg, dont vous avez été très proche, on le rappelle à ce micro, vous étiez son conseiller politique, vous le souteniez à la primaire en 2011. Certains disent même que vous étiez son ombre, vous avez théorisé avec lui les primaires. À l'époque, vous vantiez la modernité des primaires, c'est vous qui l'avez imposé à gauche. Eh bien, il n'en veut plus des primaires, non? Vous l'avez bien entendu comme ça?
Oui, je crois qu'il faut faire attention aux expressions qu'utilise Arnaud Montebourg. Il a dit « je suis candidat à la présidentielle ». Il n'a pas dit « je suis candidat à la candidature à la présidentielle ». Donc, à mon sens, dans son esprit, il a déjà tiré un trait sur les primaires. C'est dommage parce que les primaires, c'est à la fois un lieu de débat et c'est aussi, par définition, un lieu qui produit un compromis final et une synthèse et donc un rassemblement. Oui. Et c'est pour ça, moi, que je suis favorable et que j'étais d'ailleurs à l'époque favorable avec lui aux primaires. C'est pour la nécessité du débat, mais pour la nécessité aussi de faire bloc dans une période politique un peu particulière, on y reviendra.
Mais j'entends bien, mais Arnaud Montebourg ne veut pas des primaires, Mélenchon ne veut pas des primaires, est-ce qu'elles ne sont pas mornées ces primaires d'une certaine manière?
Elles auront lieu.
Et puis c'est... Avec qui?
Elles auront lieu, les électeurs choisiront deux fois leur candidat. Une première fois en participant aux primaires qui sont organisées par le Parti Socialiste, il y en a d'autres d'ailleurs, et puis une seconde fois au moment de l'élection présidentielle, en donnant ou pas un avantage à ceux qui ont bien voulu participer à ce processus d'élaboration collective et de choix collectif qu'est une élection primaire. Disons les choses autrement, il est très probable que ceux qui refusent les primaires payent au moment de la présidentielle ce refus. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ce refus? Ça veut dire de l'éclatement en plus dans une élection présidentielle qui n'est plus une élection présidentielle comme les précédentes.
Pourquoi? En quoi elle est différente?
C'est parce que avant, on était dans des processus d'alternance. Soit on décidait de l'alternance, on était dans un bipartisme, pour faire simple. Aujourd'hui, on est en tripartisme. Vous avez dans l'antichambre le Front National, qui est le danger numéro un à l'élection présidentielle, et l'éclatement produit immanquablement non seulement du Front National au deuxième tour, mais le risque que le Front National soit à l'Élysée. Et ça, c'est une responsabilité gravissime qu'on peut différer quand on est
postulant à la présidentielle. Ça va être ça l'angle qu'on va entendre à gauche, c'est attention au Front National, donc il faut se rassembler. Est-ce que c'est suffisant comme argument?
Absolument pas. D'ailleurs, encore une fois, les primaires servent à organiser un temps de débat avant le choix définitif du candidat. J'observe au passage que l'éclatement qu'à juste titre vous reprochez à une partie de la gauche, il est exactement de même nature à droite. Vous avez à peu près autant de candidats à droite qu'à gauche, et donc il y a aussi des raisons plus profond.
Ils sont tous candidats à la primaire.
À cet éclatement.
Ce quinquennat est un gâchis. Il a été celui du conformisme démocratique et de la soumission aux idées adverses. Le bilan de François Hollande est indéfendable. Indéfendable, a dit Arnaud Montebourg. Les mots sont durs.
Oui, c'est un bilan auquel il aura finalement contribué à 50%. Donc, il faut, avant d'être critique, être lucide sur la perspective qu'on y a pris. Mais après, dans ce quinquennat, tout n'est pas bon. D'ailleurs, je pense que le président lui-même le dit ici ou là. Et donc, les primaires permettront cet inventaire qui reste à faire. Mais surtout permettront, parce qu'on n'est pas non plus dans le rétrospectif, de voir dans l'état dans lequel est le pays aujourd'hui, dans lequel est l'Europe, quel type de présidence il faut exercer dans les années qui viennent et quel type de changements fondamentaux dans la façon de concevoir une politique de gauche, il faut mettre en place dans les années qui viennent.
Ça, c'est votre cheval de bataille. Et je vais y revenir dans un instant, mais d'abord sur le fond de ce qu'a dit Arnaud Montebourg. Dans un entretien à l'Express, Thierry Mondon, au début du mois de juillet, il y a deux mois, vous disiez « Je ne veux pas imaginer que le programme d'Arnaud Montebourg soit souverainiste ». Vous l'avez entendu hier, 3% de Bruxelles, on s'en fichera. On réservera 80% des marchés publics aux PME françaises. Vous êtes trompé, il est souverainiste, non ?
En tout cas, il y a deux choses dans la position européenne qui permettent de savoir si quelqu'un est ou pas souverainiste. Il y a une critique de l'état de la construction européenne aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, il y a quand même des choses à dire. Ça ne fonctionne pas sur le plan économique, on n'est pas seulement en France. Partout, à part les Allemands, qui derrière devraient être sanctionnés pour excédent excessif, et si on en suivait les règles européennes, ça ne fonctionne pas sur le plan économique, ça ne fonctionne pas sur le plan de la défense, ça ne fonctionne pas. Bon.
Donc ceux qui critiquent la construction européenne...
La critique de la construction européenne est indispensable quand on veut parler d'Europe. Mais c'est quoi les propositions? L'Europe, ça ne se fait pas tout seul dans son coin. quand j'entends parler de mandat inflexible pour aller négocier la sortie des traités. D'accord, mais une fois qu'on a sorti, on est sorti, qu'est-ce qu'on fait? On est tout seul. Et moi, je suis européen. Vous voyez, c'est même pour moi une des pierres d'achoppement de la lecture qu'on peut faire de la vie politique. Et je pense que la partie propositionnelle sur l'Europe manque aujourd'hui dans beaucoup de candidatures à gauche.
Et notamment chez Arnaud Montebourg. En tout cas, vous n'avez pas entendu...
De fait, oui. En tout cas, je n'ai pas lu à la loupe, je n'étais pas hier à Frangy, je n'ai pas lu à la loupe son discours, mais je ne vois pas de proposition de construction européenne. Or, un pays de 60 millions d'habitants aujourd'hui, dans l'état du monde, il ne s'en sort pas tout seul.
Votre cheval de bataille, Thierry Mandon, puisqu'il nous reste quelques minutes, et vous allez le défendre à Harvard, puisque vous êtes invité début du mois de septembre à Harvard pour un grand colloque sur la question démocratique, la montée des populismes, comment on fait pour lutter contre cela? Il faut changer les institutions, c'est ce que vous dites?
Non, moi, justement, je pense qu'il y a des changements institutionnels, mais le diagnostic, il est simple, il y a une société, il y a des élites, en France, comme dans plein de pays du monde, et la distance a grandi entre les deux, du fait des inégalités. La chronique qu'on vient d'entendre y faisait référence, mais pas seulement. Et aujourd'hui, surtout pour un pays de 60 millions d'habitants, il faut faire môle si vous voulez exister. Trop de distance entre une société et ses élites, voilà, tout est en panne.
Et comment on casse
a réformé...
ça, le diagnostic, tout le monde est à peu près d'accord, mais comment on casse ça?
Comment on casse ça? Il y a deux types de réponses. Les réponses de gauche, que j'espère que notre candidat présidentiel défendra, c'est des évolutions institutionnelles. Je pense que le 49-3 faut limiter. Je pense que le cumul des mandats faut totalement le consolider. Il ne faut pas faire ce que la droite est en train de faire, c'est-à-dire revenir dessus. Mais pas seulement institutionnel. On est dans des choses beaucoup plus franches. Il y a une plus profonde. Il y a une type de présidence, par exemple, différente à exercer. Jusqu'à maintenant, le président de la 5e, c'est un président directif. Il ordonne, en gros, à un appareil administratif surpuissant et à la société, ce qui est bon pour le pays. Moi, je crois au moule. Je pense qu'au contraire, il faut être un président propulsif, c'est-à-dire quelqu'un qui soit volontaire pour fixer les grands défis du pays, mais qui anime toutes les forces de la société en direction de ce pays. Donc, il y a une présidence différente. Et puis, il y a de la fabrique de décisions collectives qui doivent être vraiment collectives. On ne peut pas déléguer la mise en place des politiques à quelques hauts fonctionnaires monocolores, monoformés, aussi brillants soient-ils. Il faut diversifier les élites du pays. Donc, c'est un programme de transformation de l'architecture de la démocratie. Ce n'est pas seulement institutionnel.
Un programme que vous développerez dans un rapport que vous allez rendre au président de la République dans les prochains jours. Merci à vous, Thierry Mandon, d'avoir été avec nous ce matin sur France Inter.
Merci Léa Salamé. Il est 8h-3.